Voilà, c'est le moment d'entendre la parole de Dieu. Un moment privilégié, un moment béni, un moment où nous voulons prier pour que Dieu nous parle, pour qu'il nous donne un cœur qui écoute, une volonté pour obéir et la possibilité dans notre vie de nous soumettre à lui joyeusement, comme on vient de chanter, pour accomplir sa volonté. Prions ensemble. Seigneur Dieu, que ta parole soit notre maître, que ton Saint-Esprit soit notre guide, que ta gloire soit notre souci suprême. Donne-nous des oreilles pour entendre, un cœur pour croire, une volonté pour t'obéir. Et donne-nous, Seigneur, des occasions tout de suite dans cette semaine de vivre ta parole, cette parole vivante. Au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai 5 enfants, comme on a dit. Les 3 premières, c'est des filles. Donc, Julia qui a 15 ans, Anna qui a 13 ans et Abigail qui a 11 ans. Après, un garçon beaucoup plus simple, 7 ans. Voilà. Et puis, enfin, une 4e fille à 4 ans. Je ne sais pas si vous avez, des garçons et des filles. Un garçon, c'est simple. Tu le nourris. Tu lui donnes un ballon et c'est bon. Des filles, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, c'était la semaine dernière et c'était le matin et on était au petit-déj et on parlait de ce qui allait arriver dans la journée. Et Anna, la pauvre, c'est celle du milieu, elle est en 3e. Elle avait le même jour la photo de classe, le sport et puis juste une journée normale en plus. Et donc la grande question, c'est qu'est-ce qu'il fallait porter comme vêtement? Mais c'est vrai, hein, c'est un casse-tête impossible. Parce qu'elle veut être toute belle pour la photo de classe qui va durer toute l'année. Donc elle veut porter quelque chose de spécial. Elle veut être confortable dans ses cours de tous les jours. Donc elle veut porter un jean. Et elle veut pouvoir faire du sport sans changer de vêtements. C'est impossible, n'est-ce pas? Et en fait, moi je pense que nous vivons notre vie chrétienne beaucoup comme cela. Nous voulons adorer Dieu, nous voulons vivre avec des chrétiens, nous voulons malgré tout témoigner de notre foi, mais nous avons la flemme de changer de vêtements pour faire ces 3 activités-là. Lorsqu'on adore Dieu, on est comme cela, et lorsqu'on est à l'église, on est comme cela, et lorsqu'on veut témoigner, on est comme cela. Et en fait, changer de vêtements, ça, c'est embêtant, et ça nous prend du temps, et c'est un grand effort. Et donc voilà, si seulement la vie chrétienne on pouvait la simplifier et ne pas avoir à changer de tenue vestimentaire tout le temps. Et pour vous les adultes, je pense que si vous êtes comme moi, c'est un peu la même chose. Vous rentrez du boulot et vous n'avez pas envie de vous changer de vêtements pour bricoler. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien et vous regardez la télé. Vous avez envie d'aller courir, de faire du sport, mais vous avez la flemme de changer de vêtements, de mettre les baskets et le short. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien et vous restez là. Si seulement il y avait une façon de nous simplifier la vie, s'il y avait seulement un vêtement qu'on pouvait mettre, qui allait être le bon vêtement pour adorer Dieu, pour vivre en Église et pour témoigner. Parce que si on veut aller vers une évangélisation adaptée, il faudrait, n'est-ce pas, pouvoir simplifier les choses. Et ce que Paul nous montre dans Romains chapitre 15, il nous montre comment nous pouvons nous simplifier la vie en mettant un seul et unique vêtement qui convient pour toutes les circonstances. Et ça nous simplifie la vie comme pas possible. Donc je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 25. Une longue lecture. Allons-y. Paul vient de parler dans le chapitre 14 de si oui ou non il fallait manger de la viande sacrifiée aux idoles. Donc il est en train de conclure cette partie-là et de se lancer sur une prochaine partie de la lettre qui se termine avec ce que nous voyons à la fin de cette lecture. Nous qui sommes forts, dit-il, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissant les promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-Juifs de leur côté louent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. « Je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. » Et ailleurs, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Ou encore, « Louez le Seigneur, vous, toutes les nations, et que tous les peuples l'acclament. » Ésaïe le dit de son côté, « En rejetant naîtra d'Ésaïe, on le verra se lever pour mener les nations et les peuples païens mettront en lui leur espérance. » Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Frères, j'ai personnellement la conviction que vous êtes plein de bonté, rempli de toute la connaissance et tout à fait capable, par conséquent, de vous conseiller les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine audace sur quelques points, car je désirais raviver vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a accordée. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche d'un prêtre, en annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs, pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par l'Esprit Saint. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail pour Dieu, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener des non-juifs à obéir à Dieu. Il a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans des miracles et des prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'évangile du Christ. Je me suis fait un point d'honneur de nous proclamer la bonne nouvelle que là où le nom de Jésus-Christ n'était pas encore connu, je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondations posées par d'autres. J'y agis selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est toute cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous, et cela pourra se réaliser quand j'irai en Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant, et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait, au moins en partie, mon désir de vous rencontrer. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et nous prions Dieu qu'il bénisse sa parole à nous. Nous allons parler d'une évangélisation adaptée. Le mot évangélisation, cela veut dire tout simplement dire l'évangile, proclamer la bonne nouvelle. Et nous allons voir, en parcourant ce passage, quatre choses. Premièrement, qu'une évangélisation adaptée commence avec la communauté chrétienne, commence avec l'Église. Deuxième chose que nous allons voir, ça déborde de la communauté chrétienne. Troisième chose, c'est que l'évangélisation adaptée est une expression de l'adoration chrétienne. Et la quatrième chose, finalement, c'est que une évangélisation adaptée traverse des frontières pour implanter de nouvelles communautés chrétiennes. Voilà ce que nous allons voir en parcourant ce passage. Donc, je vous invite à garder ce passage ouvert sur vos smartphones pour que vous puissiez suivre facilement ce que je dis et voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Et si c'est votre première fois dans l'église ici. Et si vous découvrez tout ce que les chrétiens peuvent faire le dimanche matin, je vous invite à écouter et à comprendre que ce que nous faisons, c'est que nous voulons nous soumettre à la parole de Dieu dans la Bible pour voir ce qu'il nous dit et pour vivre ainsi pleinement ce que cela veut dire d'être un être humain créé à son image. Donc allons-y ensemble. D'abord, une évangélisation adaptée commence avec la communauté chrétienne. On a parlé de ce besoin de changer des vêtements pour faire d'autres et différentes activités. Mais si on avait un vêtement qui pouvait convenir à toutes les circonstances, et c'est ce que nous voyons dans la première partie de ce passage, au verset 1 à 6, Paul recommande à ce que l'évangélisation commence dans la communauté chrétienne. Mais vous allez me dire que l'évangélisation, c'est ce que l'on dit à ceux qui ne comprennent pas l'évangile. On explique l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus, à ceux qui n'ont pas connaissance de cela. C'est ça l'évangélisation. Et ce que nous faisons dans l'Église, c'est autre chose. Mais rappelez-vous bien que dans Romains chapitre 1, au verset 15, Paul dit que lui, il a envie de venir à Rome pour faire quoi ? Proclamer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Quoi, Paul ? Nous, on connaît déjà l'évangile, on est déjà chrétien, on est déjà converti, comme on dit, on est déjà né de nouveau. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que toi, Paul, tu nous annonces l'évangile ? Peut-être tu pourras nous enseigner d'autres choses, mais annoncer l'évangile, c'est pas utile, parce que nous avons déjà été évangélisés et nous sommes déjà chrétiens. Mais Paul montre, tout au long de la lettre aux Romains, que ce que nous avons besoin dans l'Église, dans notre vie de chrétien, c'est d'entendre, jour après jour, l'Évangile de Jésus-Christ. Moi, j'ai besoin d'être évangélisé tous les jours. Vous avez besoin d'être évangélisé tous les jours. Et si nous voulons avoir une évangélisation adaptée à l'extérieur de l'Église, il faut commencer en ayant une évangélisation adaptée à l'intérieur de l'Église. Et c'est ce que Paul nous montre dans les versets qui débutent ce chapitre-là. Il commence en disant, nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Donc le principe qu'il énonce, c'est le principe suivant. Dans l'Église de Jésus-Christ, personne, pas une seule personne, personne ne cherche son propre intérêt, sa propre satisfaction. Donc, si vous êtes dans cette église, si vous faites partie de cette église, vous avez signé déjà ce principe-là. En venant dans l'église, j'accepte de ne plus chercher ma propre satisfaction. J'accepte de ne plus chercher mon propre intérêt. Et donc, deuxième chose, dans le verset 2, que chacun de nous recherche la satisfaction, l'intérêt de son prochain, pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. C'est ce que nous voyons dans le verset 2. Donc, en venant dans l'Église, en venant à Jésus-Christ, nous avons aussi signé que non seulement je ne cherche plus ma propre satisfaction, mais je cherche la satisfaction et l'intérêt de l'autre. Donc, celui avec qui vous êtes assis, à droite ou à gauche, ou derrière ou devant, maintenant votre travail, votre effort, votre souci, votre pensée va vers... De quoi a-t-il besoin ? De quoi a-t-elle besoin ? Comment est-ce que je peux l'aider, elle, ou l'aider, lui, à grandir en tant qu'être humain, à grandir en tant que chrétien, être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ, l'être humain parfait ? Ça, vous l'avez déjà fait. Et comment est-ce que Paul, il encourage les chrétiens à Rome de chercher l'intérêt de l'autre ? Plutôt que de chercher leur propre intérêt. Parce que dans le monde, vous êtes d'accord avec moi, on cherche constamment son propre intérêt. Que ce soit dans la file d'attente, que ce soit dans le travail, partout où on est, on cherche notre propre intérêt. Comment est-ce que Paul encourage les chrétiens, déjà évangélisés, de chercher non pas leur propre intérêt, mais l'intérêt des autres ? Le verset 3 nous le montre. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Mais il l'a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes de ceux qui t'insultent sont retombées sur moi. » Il évangélise les chrétiens à Rome. Il annonce l'évangile de Jésus-Christ aux chrétiens à Rome pour pour que, à l'intérieur de la communauté chrétienne, se pratique une évangélisation adaptée, où on se débarrasse de notre égoïsme naturel tous les jours. Et il utilise le modèle de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ a-t-il agi? Dans son ciel de gloire, est-ce qu'il a cherché son propre intérêt, sa propre satisfaction? Lui qui était fort, nous qui étions faibles, comparé à lui, est-ce qu'il a gardé ses privilèges divins? Non, il a quitté son ciel et il est devenu un petit enfant, un embryon et puis un enfant. Il a accepté d'être circoncis. Son sang a commencé à couler ce jour-là, le huitième jour, où on l'a circoncis. Et tout au long de sa vie, il a tout fait pour nous. Il n'a rien fait pour lui-même. Rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'était pour nous et à notre place, dans sa vie de justice qu'il a vécue, dans son enseignement qu'il a donné, dans la façon dont il a aimé les uns et les autres, dans ses guérisons, ses miracles. Jésus a tout fait pour nous. Il n'a jamais, pas un seul instant de sa vie, cherché son propre intérêt, mais toujours notre intérêt à nous. Et puis, suprêmement, à la mort de Jésus sur la croix, nous voyons que là, Jésus ne cherche pas son intérêt personnel, mais notre intérêt à nous. Nous qui étions morts dans nos péchés, qui recevant la juste condamnation de Dieu, Jésus a pensé à nous, à la croix, et il a pris la punition. Il a offert à Dieu notre justice dans sa justice, et il est mort pour nous. Et dans sa résurrection, il ne revient pas à la vie pour lui-même, mais pour nous, pour que, unis à lui, nous ayons la vie éternelle. Et dans son ascension, et dans son règne, et dans son retour, Jésus pense constamment à nos besoins, à nous. Jésus-Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, ne cherche jamais sa propre satisfaction. Et Paul utilise des citations de la Bible pour le montrer et pour le démontrer. Le psaume 69. Le zèle pour la maison de Dieu consumait Jésus au point où il était prêt à accepter les insultes et même la mort et même la condamnation pour nous amener à Dieu, pour qu'enfin nous puissions célébrer la gloire de Dieu, au verset 6, ensemble. Vous avez besoin, j'ai besoin d'être évangélisé tous les jours pour que je quitte mon égoïsme, pour que je poursuive la satisfaction des autres. Le résultat, c'est uni d'un même cœur, d'une même voix. L'Église à Toulouse célèbre la gloire de Dieu. Célèbre la gloire pour Dieu, célèbre la gloire en disant les faits de l'Évangile les uns aux autres. Mais nous célébrons la gloire aussi au vu et au su de tous ceux qui nous entourent. Une évangélisation adaptée commence avec une évangélisation adaptée dans la communauté chrétienne. Mais la deuxième chose, c'est que Paul veut que cette évangélisation adaptée à l'intérieur de l'Église déborde de cette communauté-là. C'est logique que lorsqu'on a compris cela, lorsqu'on a compris que Jésus, qui était fort, a considéré nous les faibles au point de quitter son ciel, lorsqu'on a compris que cela s'applique aux chrétiens qui sont autour de moi, nous voyons aussi qu'en tant qu'Église, ça s'applique à nous. Nous qui sommes forts, nous avons reçu l'Évangile. Nous devons nous intéresser non pas seulement à nous-mêmes, mais à ceux qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Et donc, deuxième chose que nous voyons, c'est qu'une évangélisation adaptée déborde de la communauté chrétienne. Et encore une fois, Paul reprend l'Évangile et montre que l'Évangile qui nous sauve nous motive et nous transforme. Regardez avec moi le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il va développer ce verset dans les versets qui suivent. Mais il veut que l'Église soit un lieu d'accueil débordant. Encore une fois, il revient à comment Jésus m'a accueilli, moi. Et il va parler dans les versets 8 et suivants de comment Christ a accueilli d'abord les Juifs et par la suite comment il a accueilli les non-Juifs pour montrer que l'accueil qui doit exister dans l'Église de Jésus-Christ est un accueil universel qui ne fait pas de différence entre les arrière-plans, entre les différents ethnies, mais un accueil qui englobe tout le monde et qui déborde de la communauté chrétienne. L'évangile qui m'a sauvé me motive et me transforme. Le principe, c'est très simple. Ce que Jésus a fait pour moi à la croix, il m'a accueilli à sa table. Il m'a invité à manger avec lui. Il commence à faire en moi. Il fait de moi une personne accueillante. Il transforme par ce qu'il a fait pour moi. Il commence à le faire en moi. Et lorsqu'il fait des choses en moi, il veut faire des choses à travers moi dans le monde. Il m'a accueilli à la croix. Il fait de moi une personne accueillante. Il utilise ce que je suis en train de devenir par l'évangile de Jésus-Christ, quelqu'un qui accueille à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église, tout le monde, par pure grâce. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour vous? Il veut le faire en vous. Il veut le faire à travers vous, individuellement et en tant que communauté. L'évangile qui me sauve me transforme et me motive et me met en action. Et là, Paul ne peut pas se contenir. Il commence à citer la Bible à tous azimuts. Et il va citer Moïse, et David, et Ésaïe. Il va citer tout le monde pour montrer que c'est toujours le plan de Dieu d'avoir un peuple qui accueille largement autour de lui. Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle à l'accomplissement des promesses. Ensuite, il est venu pour les non-juifs de leur côté, qu'il loue Dieu à cause de sa bonté. Et puis, il cite ces versets bibliques que nous avons lus. Et nous avons lu le psaume 117 aussi. Et il termine cette partie avec le verset 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, cette espérance de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si l'Église EBTM à Toulouse comprend profondément l'évangélisation adaptée dans la communauté, cette évangélisation adaptée débordera automatiquement, naturellement, intentionnellement de cette Église, pour aller toucher tous ceux qui ne sont pas encore accueillis par Jésus-Christ. L'évangile, on a dit que c'est comme un vêtement qui passe partout. L'évangile, c'est aussi comme une musique qui nous fait taper du pied. Et si on a l'oreille attentive à la musique de l'évangile dans notre vie, dans la communauté, à l'extérieur de la communauté, on va commencer à vibrer et à danser et à nous conformer constamment à ce rythme, à cette mélodie de l'évangile qui transforme et qui déborde. Imaginons si chacun, dans son voisinage, dans son travail, auprès des démunis, si chacun avait la joie et l'espérance qui débordaient de son cœur, grâce à l'accueil que nous avons reçu en Jésus-Christ pour accueillir les autres. Une évangélisation adaptée commence dans la communauté, mais elle ne s'arrête pas là, elle doit déborder de la communauté parce que c'est un message d'accueil. Et après la logique, et vous voyez bien la logique que Paul il veut apporter, c'est que si l'évangile vous a sauvé et si l'évangile vous encourage à accueillir largement autour de vous, alors prochaine étape, c'est accueillir même au-delà des frontières de là où vous êtes à Rome. Et il va y arriver. Mais avant de faire ce mouvement-là, il veut rappeler à cette église à Rome que l'évangélisation adaptée que nous visons est une façon d'adorer Dieu. Il le fait en leur rappelant des choses remarquables. Troisième chose, une évangélisation adaptée est une expression de l'adoration chrétienne. Nous venons de chanter avant les offrandes le verset 1 et 2 de Romains 12. Je vous invite à tourner et à trouver ce passage avec moi sur votre smartphone ou dans la Bible que vous avez entre les mains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On vient de le chanter. En donnant notre offrande, on a chanté à Dieu, accepte ainsi le culte raisonnable que je t'offre dans ma vie. Paul revient à ce langage pour décrire l'évangélisation adaptée qu'il a pratiquée tout autour de la Méditerranée. Vous avez vu le verset, vous l'avez remarqué. J'ai ralenti lorsque je l'ai lu parce que je voulais le souligner. C'est au verset 16 qu'il le dit. Il dit d'abord que les Romains sont capables de conseiller les uns les autres. Ils sont capables de comprendre. Ils sont capables de saisir. Mais il veut raviver les souvenirs de tous ceux qui sont devant lui. Et puis verset 16, il dit la chose suivante. En effet, il a fait de moi le serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. J'accomplis ainsi la tâche de quoi ? D'un prêtre. En annonçant la bonne nouvelle de Dieu aux non-juifs, pour que ceux-ci deviennent une offrande agréable à Dieu, consacrée par le Saint-Esprit. Lorsque Paul témoigne de Jésus-Christ, lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, lorsqu'il fait une évangélisation adaptée, qui commence dans la communauté, qui transforme la communauté, qui déborde la communauté, qui va vers les nations, lorsqu'il fait ça, c'est l'équivalent de ce que faisaient les prêtres dans le temple, lorsqu'ils brûlaient les offrandes, lorsqu'ils faisaient des sacrifices, lorsqu'ils venaient et lorsqu'ils appelaient le peuple entier à venir à Dieu pour offrir leur adoration à Dieu. Est-ce que vous voulez adorer Dieu? Témoignez de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez l'adorer en esprit et en vérité? Faites donc une évangélisation adaptée en annonçant l'évangile à tous ceux qui vous entourent. On peut même dire que si nous voulons adorer Dieu, nous devons évangéliser. Que l'adoration de Dieu comprend comme un élément essentiel le fait d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est l'illustration que Paul a trouvée pour parler de l'évangélisation, que lui, il a fait. Et il le fait pour inviter les Romains, et donc pour nous inviter, nous, à le rejoindre dans cette mission-là. C'est grâce à Jésus, dit-il, que tout cela est possible. Il n'a aucun mérite. Il l'explique bien. Mais il veut que chacun sente la responsabilité et le privilège et ce côté sacré dans l'évangélisation qu'il propose. Dernière chose que nous voyons dans ce passage, c'est qu'une évangélisation adaptée traverse les frontières pour implanter de nouvelles communautés chrétiennes à l'intérieur desquelles il va y avoir une évangélisation adaptée. Et tout va recommencer. Parce qu'à la fin de ce qu'il dit, il dit au verset 21, « J'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui l'on n'avait rien dit de lui le verront, et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui comprendront. C'est aussi cette raison qui m'a empêché bien des fois d'aller chez vous. Il veut annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore. » Et donc là, il dit au verset 23, « À présent, je n'ai plus de champ d'action dans ces régions. Or, depuis plusieurs années, je désire aller chez vous. Et cela pourra se réaliser quand j'irai où ? En Espagne. En effet, j'espère vous voir en passant et je compte sur vous pour m'aider à me rendre dans ce pays après avoir satisfait au moins en partie mon désir de vous rencontrer. » l'évangélisation à l'intérieur de la communauté, qui déborde la communauté localement, qui est une offrande à Dieu et une adoration de Dieu, doit aller jusqu'à sa logique, à savoir annoncer cet évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu, dans les extrémités de la terre, même jusqu'en Corrèze. C'est une vraie extrémité de la terre, n'est-ce pas? Vous avez à Toulouse, je suis sûr, des ZEP, n'est-ce pas? Un ZEP, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me le définir? Zone d'éducation prioritaire. Quand j'étais prof d'anglais en France pendant un an, et on m'a placé, merci beaucoup, dans une ZEP dans le 93, pas très loin de Paris. Magnifique occasion d'apprendre le français. Monsieur, il m'a insulté grave. Mais j'ai appris beaucoup de choses, évidemment, dans une ZEP. Paul est en train de parler d'une ZEP, ici. Pas une zone d'éducation prioritaire, mais une zone d'évangélisation prioritaire. Et il y en a de partout. À Toulouse, en Corrèze, dans la France tout entière, dans le monde entier, en Europe, des zones d'évangélisation prioritaire où il n'y a pas d'église pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et on ne peut pas faire d'évangélisation adaptée si nous n'avons pas en même temps les yeux fixés sur la communauté à laquelle on appartient, aux alentours de cette communauté pour que l'évangile déborde de notre communauté localement. Les yeux fixés sur Dieu à qui on offre une adoration appropriée en témoignant. Et si on n'a pas les yeux levés pour les extrémités de la terre comme Paul l'avait. Et lorsque Paul a fait tout cet argument, en commençant au chapitre 15, verset 1, pour arriver au verset 23-24, il est en train de dire, si vous croyez l'évangile que vous transforme, vous devez, vous êtes dans l'obligation, vous êtes engagé à m'aider à aller jusqu'en Espagne, implanter une nouvelle église, une nouvelle communauté dans cette ZEP-là, cette zone d'évangélisation prioritaire. S'il y avait une famine ou une sécheresse dans un pays du monde et que nous avions beaucoup de denrées, d'eau et de nourriture, on n'enverrait pas tout cela dans un endroit où il y avait déjà suffisamment à manger, suffisamment à boire. On enverrait ce que nous avions là où il y avait le plus besoin. Il incombe à chaque église, cette église aussi, à réfléchir sérieusement à sa localité, à sa région, à son pays et le monde dans lequel Dieu nous a placés pour découvrir et identifier dans chacune de ces cercles concentriques des ZEP, des zones d'évangélisation prioritaire à Toulouse, en France, en Europe, dans le monde, et d'aller apporter ce qui est nécessaire là, par des finances, par la prière et par l'envoi de nos meilleurs aliments. C'est ce que Paul demande aux Romains de faire. Il est en train de leur dire, si vous avez compris l'évangile, vous allez m'aider. Je compte sur vous, dit-il, pour m'aider à me rendre dans ce pays d'Espagne. Et Paul s'attendait à ce que, arrivé à Rome, les Romains sortent leur portefeuille, qu'ils disent au revoir à des amis chers dans l'Église et qu'il prie pour sa mission en Espagne. On a commencé en demandant s'il y avait un vêtement qui convenait pour l'adoration de Dieu, pour le comportement à l'Église et pour l'évangélisation en dehors de l'Église. Oui, il y en a un. Paul l'a démontré tout au long de ce passage. Il suffit de croire et de revenir tous les jours sur la mélodie et le rythme de l'Évangile de Jésus-Christ. Et cela nous transforme, nous motive et nous envoie. C'est la conclusion à laquelle nous venons. Appliquer l'évangile constamment à toute la vie. Mais attention, si vous le faites, ça change tout. Prions ensemble. Merci notre Seigneur pour Jésus-Christ. Lui qui était fort n'a pas considéré ses propres intérêts, mais est venu vers nous les faibles. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ces comportements à l'intérieur de l'Église. Merci que Jésus-Christ est venu nous accueillir, nous qui étions loin par sa mort et sa résurrection. Donne-nous d'accueillir dans notre Église tous ceux et toutes celles venant même des arrière-plans différents des nôtres. Paul t'a adoré en prêchant l'Évangile. Nous voulons t'adorer en témoignant de toi autour de nous. Et nous voulons aller jusqu'aux extrémités de la terre, dans des zones d'évangélisation prioritaires, pour que ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas accès à ta grâce, puissent par l'implantation de nouvelles églises entendre parler de toi. Reçois toute la gloire et viens nous en aide. Au nom de Jésus. Amen.